Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous voici donc ensemble en cette fin de semaine pour la dernière lecture extraite du roman de Alice Ferney, Grâce et dénuement. Les enfants s'ennuyaient. Ils s'accrochaient à Esther. Elle le lisait pendant plus de 2 heures. « Ne pars pas, » suppliait-il. « Une toute petite histoire encore, » dit Mélanie. Esther feuilleta un livre de poche. « D'accord, » dit-elle, « une toute petite, mais c'est la dernière. Vous promettez ?» Ils crachèrent dans leurs mains, puis s'essuyèrent sur leurs vêtements en rigolant. Il était une fois un roi et une reine qui étaient si fâchés de n'avoir point d'enfants, si fâchés qu'on ne saurait dire. Les enfants se berçaient dans le flux des mots. C'était toujours ce même calme du plaisir qui était sur eux. Et ils ne tenaient pas leurs promesses, ils en réclamaient encore. « On était d'accord, » disait Esther, « c'était la dernière. « Je n'ai plus de voix, » disait-elle. « C'est pas grave, » disait Sandro. « Tu fais rien, tu restes. « Il faut bien que je rentre voir mes fils, « sinon ils vont me dire, « Maman, tu nous abandonnes. » On n'est plus tes fils. C'est ce qu'ils me disent quand ils ne sont pas contents. Sandro se mit à rire. Ouais, mais ils seront toujours tes fils. C'est vrai, dit Esther, ils n'y peuvent rien. J'aimerais bien que tu sois ma mère, dit Michael. Pourquoi ils viennent pas nous voir, tes garçons, dit Anita. Qu'allez-vous faire cet après-midi ? Demanda Esther, laissant à dessein la question de côté. « On ne sait pas, » dit Carla avec une moue. « Voulez-vous que je vous laisse le livre de Pinocchio ?» dit Esther. « Ben, on ne sait pas lire, » dit Sandro. « De toute façon, on s'emmerde, » dit Michael. « N'emploie pas ces mots, » dit Esther. « Ben, c'est vrai, » dit le garçon. « Je suis sûr que vous aimeriez aller à l'école, » dit Esther. Ils haussèrent les épaules. « Gadget !» dit Sandro. Ils n'avaient pas les jouets que reçoivent d'ordinaire les enfants, mais ils avaient la liberté. Ils faisaient un butin de tout ce qu'ils ramassaient. Ils allaient et venaient comme bon leur semblait. Des petites jambes grises et nues sur les trottoirs et caniveaux des rues voisines, ça sautillait, courait, revenait, s'arrêtait, reprenait. Leurs bandes débraillées connaissaient les environs autant qu'on les y redoutait. Ils vidaient les poubelles, crevaient les pneus des voitures avec des tessons de bouteilles, volaient du courrier. Leurs parents donnaient des raclées. Michael revint un soir, la paume entaillée, il pleurait. Joseph le déculotta et le fessa sans un mot. Mais rien n'aurait pu tarir la joie des escapades. Et le lendemain, il se tenait les côtes tant il riait de cette fessée. Ils étaient dans la rue, livrés à eux-mêmes, toujours à traîner les pieds sur le macadam, à rire, se moquer et se bagarrer sans raison, dans le vent incessant et l'arc que parcourait le soleil derrière les tours de la cité. Ils étaient constamment à la recherche de ce qui pouvait servir ou se vendre, et même de pièces perdues. Le jour où Sandro trouva 10 francs, les garçons passèrent le reste de la journée à le harceler. « Mais qu'est-ce que tu vas acheter ? » disait-il en sautillant autour de lui. « Rien, » répondait Sandro. « Je vais la garder. » Il avait un air résolu et les autres étaient après lui. « Essayez pas de me la voler, dit-il, je castagne le premier qui essaie. » Et de fait, il la garda. Il la garda aussi dans sa tête, obsédé par l'idée qu'il en trouverait une autre, puisque, disait-il, il était le plus chanceux. « Non, dit Anita, le plus chanceux, c'est Jumbo. » Isoris l'a dit quand il est né, et même qu'il ira à l'école. Sandro secoua la tête. On s'en foutait de l'école. Ce qu'il voulait, c'est trouver des pièces. C'était à cause des pièces. Voilà ce qu'ils expliquèrent après l'accident. Esther ne comprenait pas. Quelles pièces, demandait-elle. Et puis ce fut clair. Avec cette habitude de marcher la tête baissée sans rien regarder, Sandro n'avait pas vu la voiture. Il déboula en sautillant aussi léger qu'un oiseau. La voiture le heurta sans ralentir. Il sembla voler, allongé sur un support invisible, désarticulé sur le fond blanc du ciel, puis retomba sèchement une quinzaine de mètres plus loin. Une de ses chaussures perdues dans le choc arriva dans la figure de Mélanie qui se mit à pleurer. Personne ne s'occupait d'elle. Les enfants étaient autour du garçon. « Parle, dis quelque chose !» lui intima Carla. Il gardait les yeux fermés. « Sandro, Sandro !» fit Michael en secouant un peu le corps inerte. « Arrête !» hurla Anita. « Il faut pas le toucher, il pourrait se paralyser !» Et elle se pencha sur son frère. « C'est Anita !» dit-elle très doucement à son oreille. « Ta sœur Anita !» « Tu n'es pas tout seul ?» dit Anita, si bas que les autres ne l'entendaient pas. Ils s'approchèrent pour voir ce qu'elle faisait couchée sur son frère. « C'est ta grande sœur Anita » disait-elle. « Tu n'es pas seule, » répéta-t-elle. « Ta grande sœur est près de toi. » Elle se mit à pleurer. Ils étaient agglutinés les uns contre les autres, dans la fine bruine qui restait en gaz sur leurs cheveux. « Poussez-vous !» hurla Anita. « Il ne peut pas respirer !» Les cousins s'écartèrent. Ils ne virent pas l'automobile repartir, ni Mélanie qui continuait de pleurer en s'en allant vers les caravanes. Les mères accoururent et elles étaient déjà à pousser des cris. On distinguait à peine les prénoms de leurs enfants quand elle reconnut la chaussure que tenait Mélanie. Misia s'effondra dans la boue. Elle arriva la dernière sur la route et s'allongea près de son fils. Le visage du garçon était couvert des fines bulles de la pluie. Il semblait dormir dans un tulle. Misia l'essuya avec sa jupe en répétant son prénom. « Où il est, ce mec, que je le bute ?» hurlait Lulu. « Il a peut-être rien senti, » dit Angéline. « Ouais, dit Antonio, il a vu que c'était qu'un gitan. » Et en disant cela, ses yeux s'emplirent de larmes. Ils n'appelèrent pas la police. Ils savaient qu'elle demanderait en vertu de quel droit ils occupaient ce terrain. Ils n'essayèrent pas non plus les pompiers, personne ne se déplaçait jamais pour eux, pas même les éboueurs qui ne venaient plus par là depuis que les gitans y étaient. Lulu se souvint du jeune interne qui avait crié avec lui, et Misia acquiesça, c'était un homme bon. Ils retournèrent donc à l'hôpital où était né Jumbo. Coma et hôpital, c'étaient les deux mots que Misia répéta à Angéline au cœur de leurs pleurs, tard le soir, après qu'elle se fût résolue à abandonner l'enfant à la nuit qui était à la fois dehors et en lui. Sandro était branché à une machine qui le faisait respirer. Angéline ne comprenait pas. Misia ne savait pas expliquer. Elles se turent. Côte à côte, dans la pénombre trouée par le feu et le vent invisible. Ils allaient le voir chaque jour. Lulu donnait la main à Anita. Misia portait Jumbo dans ses bras. « Donne-le, » disait Lulu, « il est lourd. » Elle ne voulait pas le lâcher. À l'accueil de l'hôpital, les regards se portaient sur eux avec insistance. Discrètement, les femmes vérifiaient leurs sacs à main. Misia sentait la méchanceté autour d'elle. L'ascenseur se refermait comme un tombeau. Elle se mettait à pleurer dans le cou de Jumbo. Sandro dormait dans un infini de silence. Arrivée dans la chambre, Misia se serrait contre lui, trempait de larmes son vêtement d'hôpital. Même l'eau de sa mère, l'eau dont il venait, ne l'éveillait pas. Chaque jour, à la même heure, une infirmière les faisait sortir pendant les soins. Misia s'avançait. Les soins pour son fils, qui d'autre qu'elle-même aurait dû les donner ? Mais c'était toujours un refus. Sans doute, elle n'était pas assez propre. Et Misia ne hurlait pas pour le seul droit de revenir voir son fils. Maintenant, l'hôpital voulait débrancher la machine. Misia ne comprenait rien. Est-ce qu'il était vivant ou est-ce qu'il était mort ? Quand elle s'asseyait au bord du lit, elle était certaine qu'il la reconnaissait. Oui, même dans ce sommeil immense, il sentait que sa mère était là. « Il va se réveiller, dis-moi qu'il va se réveiller !» suppliait Misia le soir dans les bras de Lulu. Il se retenait de pleurer avec elle. Il avait cessé de croire à ce réveil, mais on ne pouvait lui demander de le dire à sa femme. Il se taisait, laissait glisser ses mains interminablement sur le dos large de Misia. Oh, pensait-il, ils étaient seuls avec cette douleur, et ils n'avaient que leur amour, et les autres n'y pouvaient rien. Un soir pourtant, il trouva le courage, il la prit par les épaules, elle pleurait. « C'est fini, » dit-il. Les yeux rougis de Misia s'écarquillèrent. « Il se réveillera plus, » dit-il. Et les larmes coulaient sur son visage rugueux de barbe parasée. Elle s'effondra entre ses bras. Elle était si molle et pesait soudain très lourd. Il ne fit qu'atténuer sa chute. Elle gémissait à la façon terrible des bêtes blessées à qui on n'explique rien. Dans sa nacelle, Jumbo se mit à pleurer, tendant ses bras vers elle. Lulu le prit dans ses bras, mais l'enfant s'étouffa de colère. Il voulait celle qui ne pensait qu'à l'enfant perdu. Thank you. revoici donc après cette pause musicale pour le dernier extrait de Grâce et dénuement de Alice Fernet.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Esther arriva le mercredi à l'heure habituelle. Une brume humide s'affalait dans le silence autour des caravanes. Sans le mouvement des corps et le chant des voix qui accaparaient l'attention, les choses à cet endroit de la terre ne dissimulaient plus leur laideur. Esther chercha des yeux les enfants. Elle imagina qu'ils se cachaient et se mit en devoir de les chercher. Elle appelait « Carla, Sandro, Michael, ouh, je suis là, sortez de vos cachettes !»« Où sont-ils tous ?» pensait-elle. Elle frappa aux portes des caravanes sans obtenir de réponse. Les camions n'avaient pas quitté leur place. Le feu n'avait pas été allumé. Elle s'installa dans sa voiture. Malgré cette absence inhabituelle, elle ne s'inquiéta pas. Elle apportait de nouveaux livres et les feuilleta en attendant. Il y a des jours d'ardeur. Esther avait envie ce matin-là de lire, d'expliquer, envie de parler, comme on a lorsque l'on ressent avec plus d'acuité l'étonnement d'être et l'impression, toujours fausse, de savoir comment s'y prendre. Elle attendit. Une sombre forêt de sapins se hérissait de chaque côté du cours d'eau gelé. Les enfants allaient adorer cette histoire. Elle lisait au hasard des pages en se réjouissant. Les hommes cheminèrent sans parler à travers le monde des grands gels. Le silence n'était rompu que par les hurlements de leurs poursuivants qui rôdaient invisibles sur leurs traces. Il y avait un secret au cœur des mots. Il suffisait de lire pour entendre et voir. Et l'on n'avait que du papier entre les mains. Il y avait dans les mots des images et des bruits, la place de nos peurs et de quoi nourrir nos cœurs. Elle ne s'arrêtait plus de lire. Une grande peur l'envahit, la terrible peur de l'inconnu. Il s'accroupit à la lisière de la grotte et contempla le monde. Esther leva les yeux. Alors, de loin, elle vit venir le cortège noir. Les hommes soutenaient les femmes dont les visages et les cheveux étaient couverts de montilles. Tassée par le chagrin, elle semblait à peine plus grande que leurs enfants qui marchaient à côté, sans crier ni sautiller. Personne n'avait eu besoin de leur demander d'être sage. Seule Anita avait pensé à la chair de son frère enfermée dans une boîte. Juste derrière le bois, il y avait son visage et son corps, le ventre rond qui sortait de son pantalon et les cheveux bouclés qu'elle tirait quand il bougeait trop dans le lit. Cette idée-là était incroyable, qu'il fût enfermé là, si près. Elle ne pouvait plus le voir. À quoi ressemblait-il maintenant ? Elle avait entendu parler les adultes. « Ça va très vite, » disait-il. Elle n'avait pas compris de quoi il s'agissait. « Pourquoi on ne le garde pas avec nous ?» pensait-elle. Qu'elle n'eût pas été gentille, ce souvenir lui faisait mal. Quand il dépassait la frontière qui séparait entre leurs lits, elle lui donnait des coups de pied. Elle pleura à cette idée. Pendant que le prêtre parlait, Michael était allé jouer avec les poignées du cercueil. Personne ne lui avait rien dit. Anita s'était avancée pour l'en empêcher. « Laisse ça !» avait-elle dit tout bas. « Viens par ici !» Mais le petit garçon n'écoutait rien. « C'est pas toi qui commandes !» disait-il, en faisant exprès de tripoter cette poignée. Elle lui avait donné une tape sur la main. « Méchante !» « Viens avec moi !» avait imploré Anita. « Je t'aime pas !» disait le garçonnet. Sandro n'avait jamais été seul pour dormir. « J'ai envie de le voir », se disait-elle. Elle se remit à pleurer. Elle n'avait plus Dieu. Quand Esther distingua leur visage effaré et les traces des larmes qui avaient lavé leurs joues, des rails clairs sur le gris de la peau, elle posa son front contre le volant. Ils aperçurent de loin la tache jaune que faisait la Renault dans la brume et la terre. « Qu'est-ce qu'on va dire à Esther ?» demanda aussitôt Anita. Les autres ne répondirent pas. Ils pensaient soudain qu'Esther ne savait rien, qu'il faudrait faire entrer dans des mots cette sottise ineffaçable, l'assoupissement éternel du frère et l'inexorable ruissellement des mères. Et d'ailleurs, ils y réussirent. Ils firent un cercle silencieux autour de la voiture et leurs mains posées sur la tôle exorcisaient quelque chose en eux qui était né ce jour-là et ferait qu'ils ne seraient plus jamais les mêmes. Qu'ils ne croiraient plus que les vieux sont les seuls à mourir, ou du moins les premiers, ou même que la mort n'existe pas, qu'on est tous invincibles. Esther écouta ses enfants farouches. Il voulait s'asseoir sur elle. Il est tellement vrai que le contact physique vient en premier apaiser la peur. Ils se tinrent blottis dans leur stupeur les uns contre les autres. Esther sentait la fleur, on pouvait lui parler. Misia était rentrée chez elle. Milena tenait le poignet blanc entre ses doigts avec un air désemparé. Angéline s'était couchée avec les soins d'Angelo. « le Dieu !» gémissait-elle. Un petit gitan de rien, le Dieu. Et cela voulait dire, qu'as-tu fait? Ne fais pas de mal à nos enfants. Et sa peau ridée luisait autour de la bouche encerclée par les larmes. Lulu, Antonio, Simon et Joseph étaient debout, ballants et inutiles à côté des camions. « C'était à cause des pièces », expliquait Mélanie à Esther. Des larmes remplissaient les yeux d'Esther. « Toi aussi tu pleures ?» dit Michael. « Et la voiture ?» murmura Esther. « Pfff, envolée !» fit Carla. La colère monta en elle comme un sang neuf. S'ils étaient allés à l'école au lieu de courir dans la rue, cela ne serait pas arrivé. C'était un droit, ils l'auraient. Mais d'abord, elle laissa passer le temps. C'est seulement de temps que sont faits les deuils, de sa trame impalpable dont on ne voit jamais que les effets. Le temps qui nous fait sortir de tout, qui a ce pouvoir de nous changer, de nous bonifier et de nous altérer, de nous tirer du plus grand malheur, comme de l'émoi et des éblouissements, et de nous-mêmes à la fin, de notre corps charnu et lourd. Oui, le chagrin se casserait contre la vie. Les autres enfants, les caresses de l'amour, les arbres qui reverdissent et le soleil qui vient. Mais combien faudrait-il de jours et de nuits de larmes et de baisers sur Missia pour effacer et reprendre? On ne pouvait pas le savoir. Donc, Esther attendit. Ce ne fut pas si long. Un fils manquait à Missia. Mais elle vivait avec deux enfants et un époux. On ne fait pas comme on veut la grève de vivre. Les contraintes n'avaient pas changé, ni l'obligation d'exister au-delà des revers. Lulu était plus détruit que son épouse, il avait moins à faire. Il aurait voulu parler de Sandro, et Misia l'avait interdit. La peine séparait les époux autant qu'elle les rapprochait. Lulu était sans cesse après sa femme. Misia portait Jumbo sur sa hanche. Elle avait ce lien avec la chair nouvelle qui manquait à Lulu. « Donne-le un peu » murmurait-il. Mais l'enfant s'accrochait à sa mère. Et l'enfant berçait sa mère dans ce qui, en lui, de nature et d'enfance, le propulsait vers la vie. Misia était prise dans cette maille tendre. Anita, elle aussi, suivait sa mère partout. Elle lui tenait la main, en caressait le dos avec un regard parfaitement vide. Parfois, Misia lui rendait cette étrange caresse. On eût dit deux folles. Les autres les regardaient à la dérobée, dans l'oisiveté où ils étaient tous la mère, la fille, la mère et la sœur du défunt. La mort de Sandro avait souligné et suspendu le cours naturel des choses. Dans le sursaut de clairvoyance que donne aux autres la mise en terre d'un homme, les gitans tendaient vers une perfection inhabituelle. Simon eut des jours entiers de calme et de lucidité. Il refusait de prendre ses médicaments. Angéline se montrait inflexible. « Je vais bien, » disait-il. Mais la vieille ne voulait rien entendre. « Fais venir le docteur alors, » disait-il. « Il verra que je suis plus malade. » Sans répondre, elle tendait trois pilules roses dans le creux plissé de sa main avec un air obstiné et sévère. Il avalait sans eau ce poison acidulé et elle pensait « Personne sait comme c'est dur pour une mère de donner à son fils ces saloperies qui endorment l'esprit. » Il fallait se justifier. « On ne guérit pas de la colère, » disait-elle à Simon. « Tu es le vent qui tombe et se réveille. »« Viendras-tu m'aider à la fin ?» criait Lulu. « J'arrive, » disait Simon. Il partait aider le frère qui avait décidé de laver les camions. « Où il est, Antonio ?» demanda Simon. « Devine, » dit Lulu en ricanant. Antonio ne quittait plus Nadia. Il était redevenu l'ardent et tendre amant qu'elle avait aimé. Mais cela ne durerait que le temps du deuil, celui qui permet de mesurer ce que c'est d'être là, de vivre et d'aimer. Voilà, nous avons donc terminé ces extraits du roman de Alice Ferneg, « Grâce et dénuement », que vous pourrez vous-même... continuez pour connaître la fin de ce roman. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour une autre lecture. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.